Est-ce qu'il y a des gens à lever la main si vous avez lu la lettre de 1er Jean dans les dernières semaines? Quelques-uns, super. C'était certain que Christian l'a lu ce matin parce que sa liste de chants était clairement inspirée de 1er Jean. Si vous l'avez lu, je faisais genre « Oh wow, c'est ma prédication qu'on a chantée ». On continue aujourd'hui cette série sur la lettre de 1er Jean qu'on a débutée la semaine dernière. Et je vais commencer par une petite mise en rappel du contexte. L'apôtre Jean écrit à des églises de l'Asie mineure parce qu'il y a des enseignants qui se promènent dans les églises en enseignant une fausse doctrine. Entre autres, il mentionne qu'il croit que tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel est mal. Donc, Jésus l'homme ne peut pas être Dieu. Et le Christ ne peut pas être un homme. Pour eux, soit le Christ est une illusion, soit l'Esprit du Christ a pris possession du corps de l'homme Jésus pendant un certain temps. Il croit aussi que le péché, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'il est fait dans la chair, donc ça n'affecte pas l'Esprit. On peut donc faire ce qu'on veut sans conséquences éternelles. Et finalement, il croit que la vraie connaissance s'obtient que par une révélation secrète qu'on ne peut pas obtenir sans passer par eux. Eux ont reçu une révélation spéciale. Il y a juste eux qui peuvent la transmettre. Et les chrétiens qui rejettent leur enseignement, ils n'ont pas accès à cette connaissance. En fait, ils vont jusqu'à aller que si tu rejettes leur enseignement, ils agissent avec toi avec colère, avec haine, ils brisent les liens, ils parlent en mal de toi dès que tu rejettes leur enseignement. Et ces faux enseignements créent plein de doutes et d'inquiétudes parmi ces chrétiens qui se posent des questions, qui en viennent même à douter de leur salut. Et honnêtement, avec des différents mots, de manière différente, on retrouve encore ces enseignements aujourd'hui. Il y a encore des gens chrétiens et non chrétiens qui remettent en question la divinité de Jésus, le fait qu'il est le Fils de Dieu, ou des gens qui banalisent le péché, qui acceptent des comportements, des attitudes de cœur qui sont contraires à ce que la Bible enseigne. Des gens qui affirment avoir eu une révélation spéciale et nouvelle de Dieu, et qu'ils ont la seule et la bonne interprétation des Écritures. Qu'eux, ils ont compris. Il y a encore des gens qui créent le doute dans nos cœurs face à notre salut, face à notre position avec Dieu. Et c'est entre autres que 1er Jean vient confronter en nous rappelant qui est Jésus, et en nous rappelant comment nous sommes appelés à agir en tant qu'enfants de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu comment Jean parle, surtout dans la première partie de l'Épître, comment Dieu est lumière, et qu'on est appelé à demeurer, à vivre dans cette lumière. Et cette semaine, Jean continue en affirmant que Dieu est amour, et qu'alors qu'on réalise qu'on est ses enfants, on est appelé à vivre pleinement dans cet amour, et à démontrer cet amour les uns envers les autres. Vous allez voir, la semaine dernière, on lisait vraiment les deux premiers chapitres, verset par verset. Cette semaine, il y a trois chapitres. Et comment Jean écrit, c'est vraiment, il répète les mêmes choses fois après fois avec des mots différents. Et on va se promener à travers les chapitres 3, 4, 5 de l'Épître et voir ce que Jean essaie de nous dire. Donc, je vous invite à garder votre Bible ouverte, à garder votre application ouverte dans 1er Jean, parce qu'on va se promener un petit peu. 1er Jean 4. Versets 7 à 10. Jean écrit et dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est aimée de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. » Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu est amour. Le terme que Jean utilise ici pour décrire l'amour, c'est un terme qu'on connaît si on a vécu assez longtemps dans l'Église, c'est le mot agapé. Et on ne parle pas ici d'un sentiment de « Ah, je me sens en amour ». On parle ici d'un acte déterminé, volontaire, qui conduit à des gestes de don de soi. Dieu n'est pas juste ressent l'amour, Dieu agit avec amour. Dieu agit d'une manière parce qu'il aime. L'amour dont Jean parle ici n'a rien à voir avec l'amour que notre monde nous présente. Hein, ce n'est pas occupation double. Dans notre culture, l'amour est souvent quelque chose de très égoïste, comment je me sens, ce que ça m'apporte, de très sexuel. C'est souvent relié à un sentiment, à un désir de me sentir bien. Hein, on dit qu'on est en amour quand on se sent bien avec une personne. On dit « Ah, je suis bien avec cette personne-là, je pense que je suis en amour, je voudrais vivre ce sentiment-là toute ma vie. » Ce n'est pas du tout ce que l'amour dont parle Jean est. Pour Jean, l'amour, c'est quelque chose de sacrificiel. Ça signifie de se donner, d'aider. Et Jean affirme que Dieu est d'amour. Attention, hein? Jean ne dit pas que l'amour est Dieu. L'amour, ce n'est pas ce qui définit Dieu. Mais Dieu définit ce qu'est vraiment l'amour. Vous voulez vraiment connaître l'amour? Regardez à Dieu. Hein, le verset 9 nous dit, quel est cet amour? Nous décrit cet amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Dieu n'a pas envoyé un ange, Dieu n'a pas envoyé une créature. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils parce qu'il nous aimait avant que nous l'aimions. En Romains 5, 8 nous dit, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors qu'on était encore ennemis avec Dieu, Dieu nous aimait. Dieu agit par amour pour nous. Ce n'est pas l'amour que nous présente Hollywood et la télévision et notre monde. Il n'y a pas d'histoire d'amour où c'est mon ennemi, mais je l'aime tellement. Je vais tout faire pour lui. La Bible nous dit que si on veut voir l'amour, il faut regarder à la croix. Si on veut démontrer l'amour, il faut regarder à la croix. Si on veut connaître l'amour, regardons à la croix. Si on veut vivre l'amour vraiment, regardons à la croix. Hein, un verset qu'on connaît tous, Jean 3, 16, dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu a donné son Fils par amour. Et dans 1 Jean 3,16, et là, ce n'est pas Jean qui a arrangé les choses, ce n'est pas lui qui a mis les chiffres et les versets dans la Bible, mais ça donne de même. 1 Jean 3,16 dit, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Hein, c'est intéressant que pour Jean, autant le Père que le Fils sont impliqués dans l'œuvre d'amour. Jean 3,16 dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Et 1 Jean 3,16 dit, « Christ a donné sa vie pour nous. » Oui, le Père donne son Fils, mais Jean aussi affirme que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est un sacrifice volontaire. Les deux ont aimé et les deux se sont donnés. Les deux ont sacrifié quelque chose pour nous, afin que nous ayons la vie. Jésus n'est pas passif dans tout ça. Dans l'œuvre de la croix, Jésus n'est pas « bon, ben, j'ai pas le choix d'avancer ». Non, Jésus est volontaire. Il a donné sa vie pour nous. Par amour, Jésus a vécu la vie que nous aurions dû vivre, mais qu'on n'a pas vécue. Par amour, il a subi la mort qu'on aurait dû mourir, mais qu'on n'a pas à subir. 1 Jean 4,16, Jean continue, écrit, « Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et cet amour qu'on a connu, c'est l'amour qui s'est révélé à la croix. Hein, c'est l'amour à lequel on est appelé à demeurer, cet amour que Dieu a démontré en nous. Et la première chose que Jean veut qu'il soit clair, c'est que Dieu est amour. Que Dieu nous aime. Et là, Jean continue. Il dit, non seulement Dieu est amour, mais, 1 Jean 3, versets 1 et 2, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et lorsque ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné, dans quel but, pour que nous soyons ses enfants. L'amour que Dieu a est en action. L'amour que Dieu a un but. Il veut faire de nous ses enfants. J'affirme que parce que Dieu nous aime, il ne nous a pas juste appelés ses enfants. Hein? Il mentionne, nous le sommes, il fait de nous ses enfants. Ce matin, vous êtes des enfants de Dieu. Ce n'est pas juste un nom, c'est votre statut qui change. On peut se présenter devant Dieu en disant, je suis ton fils, tu es mon père. Je suis ta fille, tu es mon père. Toute une assurance qui vient quand on comprend ça. Et donc, on porte son nom. On est à son image. Et donc, qui Dieu est devrait être également une réalité dans nos, devrait être une réalité dans nos vies. On est ses enfants dès maintenant. Hein? Jean dit, maintenant nous le sommes. On peut recevoir cet amour dès maintenant. Et en même temps, Jean est conscient qu'on n'agit pas toujours comme des enfants de Dieu. Qu'on n'est pas encore entièrement sanctifié. Hein, il va dire, ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Il était conscient qu'il y a un processus qui continue d'être en nous. Mais on a cette promesse que quand on va voir Christ, quand il va l'apparaître, on va devenir semblable à lui. Et ça, c'est notre espoir en tant que chrétien. C'est un « maintenant et pas encore ». Maintenant, je suis enfant de Dieu. Mais un jour, je serai pleinement transformé à sa gloire. On a hâte, hein? Je comprends les Écritures et disent, Seigneur, reviens, Seigneur. 1 Jean 5, Jean écrit, dit, quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et gardons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jean affirme que ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient que Jésus est Christ, sont nés de Dieu et qu'il les aime. Hein, je vous ai mentionné qu'il y avait des gens qui disaient que, non, Jésus l'homme, c'est pas Christ. Mais Jean dit, ceux qui croient que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, qu'il est le choisi de Dieu, c'est eux qui sont nés de Dieu. Il y a des gens dans les églises auxquelles Jean écrit qui créent du doute. Êtes-vous vraiment des enfants de Dieu? Est-ce que vous ne manquerez pas quelque chose? Hey, moi, j'ai quelque chose de plus à t'offrir. Tu n'es pas encore pleinement un enfant de Dieu. Est-ce que c'est vraiment suffisant ce que tu as? Alors, Jean va leur donner des évidences que nous sommes des enfants de Dieu. Premièrement, et on regarde ce texte de Jean 5, au verset 1, la première évidence qu'on est des enfants de Dieu, c'est qu'on croit que Jésus est le Christ, le Messie. On doit croire que Jésus de Nazareth est le Messie, le Christ, le libérateur promis et attendu, le choisi de Dieu. Charles Spurgeon va dire, c'est pas juste une croyance à propos d'une doctrine ou d'une opinion ou une formule. C'est une croyance à propos d'une personne. Jésus est le Messie, le oint, le choisi, le mis à part. Il est le prophète ultime. Il est le prêtre. Il est le roi. Et la première chose que Jean va dire, c'est croyez que Jésus est le Messie. Les enfants de Dieu croient que Jésus est le Messie. Deuxièmement, nous aimons le Père. Hein? Jean va dire, verset 1, si quelqu'un aime un Père, verset 2, nous savons que nous sommes aimons les enfants au fait que nous aimons Dieu. C'est la chose que Dieu désire plus que toute autre chose, que nous l'aimions. Parce que c'est notre raison d'être. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour être en relation, en communion avec Dieu. C'est ce que Dieu désirait de la création du monde. Il y a cette image dans Dieu qui crée Adam et Ève et qui, à chaque jour, vient leur parler. Cette idée d'une communion qu'il avait avec eux. Et c'est ça que le péché a détruit dans nos vies. Cette communion avec Dieu. Et c'est ça que Dieu est venu restaurer à la croix. Une possibilité d'être à nouveau, d'avoir une relation d'amour entre Dieu et nous. C'est ce qui donne une vraie valeur à tout ce qu'on fait. Quand c'est notre amour pour Dieu qui nous motive, qui nous dirige. Mais comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? Jean va dire dans 1 Jean 4, 19, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » La seule manière de vraiment aimer Dieu, c'est de découvrir l'amour que Dieu a pour nous. Parce qu'alors qu'on découvre à quel point il nous aime, c'est là qu'on peut en venir à l'aimer vraiment. Alors qu'on réalise tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a donné pour nous, c'est là qu'on peut en venir à mesure de vraiment l'aimer. Jean continue et dit, non seulement nous croyons que Jésus est le Christ, nous aimons le Père, mais les enfants de Dieu aiment les enfants de Dieu. En verset 1 et 2, il parle de comment, si tu aimes le Père, tu vas aimer les enfants aussi. Aimer Dieu va me conduire à aimer ceux que Dieu aime. Alors que je demeure en Dieu, je deviens de plus en plus semblable à qui Dieu est. Avoir un cœur selon son cœur. Mon amour pour les autres va automatiquement grandir. Parce que Dieu aime les autres. Je vais en venir à chercher non seulement leur bien immédiat, hein, mais aussi leur bien ultime. Parce que je les aime, je désire leur salut éternel. Aimer, ce n'est pas juste vouloir le confort des gens. Ce n'est pas juste répondre à leurs besoins immédiats, même si c'est nécessaire, même s'il faut le faire. Mais c'est vouloir leur salut éternel. C'est ce qui devrait nous motiver, notre désir d'annoncer l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est notre amour pour Dieu, ma réalisation que Dieu aime les autres et désire également être en communion avec eux. Que les autres aussi ont besoin de découvrir son amour. Pour Jean, c'est logique. Plus que je réalise que Dieu m'aime, plus je l'aime, plus je vais aimer les autres, plus je vais leur parler du Père qui les aime. Parce que je ne peux pas garder ça pour moi, parce que mon cœur est rempli du même amour pour eux. Les enfants de Dieu aiment les autres. Les enfants de Dieu aussi obéissent à ses commandements. Verset 2 et 3, est-ce qu'on peut juste revenir? Oui, c'est ça. Verset 2 et 3, nous sommes, non, dans le chapitre 5, excusez-moi. Verset 2 et 3, nous aimons Dieu et respectons ses commandements. L'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Plus mon amour pour Dieu augmente, plus mon désir de lui plaire, de faire sa volonté, de lui obéir, va augmenter. C'est une très mauvaise comparaison que je vais utiliser, mais j'aime énormément mon épouse et je veux lui plaire. Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux répondre à ses besoins parce que je l'aime. J'allais dire « je veux lui obéir », mais on n'est pas dans le même type de relation. Mais c'est ça qui se passe pareil des fois. Hein, j'ai le dernier mot, je dis « oui, chérie ». Ma relation avec Dieu, plus je l'aime, plus je veux lui plaire, plus je réalise aussi que ce qu'il a pour moi, ce qu'il me dit, est le meilleur, parce qu'il m'aime. Et donc, plus je vais lui obéir, et comme Jean va dire, c'est pas un fardeau, parce que je comprends qu'il m'aime. Je comprends que c'est le meilleur pour moi. C'est pas genre, oh, encore. Non, c'est, ah oui, Seigneur. Ça me fait plaisir de lui obéir. Pas seulement parce que j'ai peur du jugement, parce que j'ai peur de la punition. Non, mais parce que je désire lui plaire, parce que je l'aime. 1 Jean 4:18, un verset que j'aime beaucoup, beaucoup. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Parfois, on obéit. Et c'est le cas, je pense, beaucoup des enfants ou des élèves à l'école. On obéit parce qu'on a peur d'une punition. On a peur des conséquences. Et donc, dès que on le sait qu'on ne sera pas pogné, ça ne dérange pas de désobéir. Quand l'enseignant quitte la classe, et ça je parle par expérience, hein, quand le chat est parti, les souris dansent, parce qu'il dit, ah, il ne nous verra pas. Jusqu'à temps, je vous le dis, les enfants et les adolescents sont très bons pour se stouler les uns les autres. Donc, on finit tout le temps par le savoir. Mais quand il n'y a plus de peur, quand c'est la peur qui motive notre obéissance, le moment que l'idée d'une punition n'est plus là, c'est pas grave de désobéir. Et je ne me ferai pas pogner. Si c'est la peur qui motive. Mais Jean dit, quand c'est l'amour qui nous motive, oh, ça change tout. Parce qu'en tout temps, je veux plaire. C'est pas juste quand on me voit. C'est en tout temps, je veux faire plaisir. En tant que parent, quand on a une relation avec nos enfants, ça change tout. Quand nos enfants nous aiment et veulent nous plaire, hein, vous avez déjà été enfant que vos parents vous ont dit « je suis déçu », ça fait tellement plus mal que dire « voici la punition ». Une fois juste un regard déçu fait beaucoup plus mal qu'une grosse conséquence. Parce qu'on aime et on sait qu'on a fait mal. Et avec Dieu, c'est la même chose. Quand ce qui motive notre obéissance et notre amour pour Dieu, oh, ça prend un autre niveau. Quand on grandit dans notre compréhension de l'amour de Dieu, qu'on grandit dans notre amour pour lui, ce n'est pas la crainte d'un jugement, la peur d'une punition qui motive notre obéissance. On n'oublie plus à Dieu seulement pour éviter le jugement. En fait, on devient conscient qu'on ne pourra jamais assez lui obéir pour éviter le jugement. Qu'on ne sera jamais assez bon pour éviter le jugement. Mais on réalise qu'à cause de son amour à la croix, on peut être pardonné. On peut être purifié. On peut éviter le jugement qu'on mérite. Et c'est pourquoi Paul, dans Éphésiens 3, 17, nous invite à réaliser l'amour de Dieu. Hein? Paul prie, « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. » Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous voulez obéir à Dieu? Découvrez son amour. Développez une communion avec lui. Ça va beaucoup plus être durable que si c'est juste la peur qui vous motive. Cinquièmement, nous avons triomphé du monde. Et on se souvient, on a le dit la semaine passée, quand Jean parle du monde, il parle ici de la philosophie du monde, des désirs, des aspirations que le monde nous appelle à rechercher. En tant qu'enfant de Dieu, par notre foi en Jésus et l'œuvre de la croix, on a la victoire sur l'influence de ce monde dans nos vies. Le monde n'est plus ma passion, Dieu est ma passion. Mon désir se porte plus constamment vers le péché, mais vers Dieu et sa volonté. Je suis plus consumé par ce que j'ai pas ou par ce que j'ai. Je me languis plus pour des biens matériels, mais pour reprendre le psalmiste, mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est ça, triompher du monde. Hein, ce qui est au centre de ma vie, ce qui motive mes attitudes, ce qui motive mes comportements, c'est de plaire à Dieu. Et un rappel dans les moments où on pêche, Jean nous rappelle, mais si l'un de vous a péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner de tout péché. Et dernièrement, au verset 5, Jean affirme que les enfants de Dieu croient que Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Hein, c'est un rappel du début, mais là il dit, le nom de Jésus qu'il l'identifie en tant qu'homme, et Fils de Dieu qui l'identifie en tant que divin. Non seulement les enfants de Dieu croient que Jésus est sauveur, le Christ, mais ils croient que Jésus est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre pour donner sa vie. Donc Dieu est amour. Et Jean dit, non seulement Dieu est amour, mais il fait de nous ses enfants. Et là, Jean pose la question, et il répond à la question, mais comment agissent des enfants de Dieu? Qu'est-ce que ça change d'être un enfant de Dieu? Comment ça agit un enfant de Dieu? Comment est-ce que c'est différent? Et Jean donne trois marques de naissance des enfants de Dieu. Un, les enfants de Dieu ont des bonnes croyances. Ils ont les bonnes croyances. Hein, ils croient la vérité. Dans le cas de Jean, c'est particulièrement important en ce qui concerne Jésus, parce qu'il y a des enseignants qui viennent dire plein de fausses choses concernant Jésus. Et dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, Jean a écrit et dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, il est maintenant déjà, et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Maintenant, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean rappelle aux chrétiens que tous les enseignants ne sont pas des bons enseignants. Tous les enseignants ne sont pas crédibles. Hein, il mentionne de mettre les esprits à l'épreuve. Et si Jean ne parle pas nécessairement d'esprit dans le sens d'être spirituel, même si parfois les faux enseignants peuvent être dirigés par des mauvais esprits pour causer du trouble dans l'Église. Mais ici, Jean parle d'une manière de penser, hein, d'une philosophie. Un peu comme quand on va parler de l'esprit du monde ou au verset 6, l'esprit de l'erreur. Et il nous donne des tests pour voir si un enseignant est de Dieu. Tout d'abord, il dit, un enseignant qui vient de Dieu, qui est inspiré du Saint-Esprit, confesse le vrai Jésus. Hein, dans Matthieu 16, au verset 15, Jésus demande à ses disciples, il dit, « Et d'après vous, qui suis-je? » Au verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Jésus dit que déclarer qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous est révélé de l'homme, mais c'est qui nous est révélé du Père. Et Jean dit, « Ceux qui viennent de moi vont affirmer une telle chose. » Jean pose la question aussi, est-ce qu'il est basé sur la parole de Dieu ou est-ce qu'il parle le langage du monde pour bien paraître? Au verset 6, Jean dit, Jean se positionne, il dit, nous sommes de Dieu, nous parlons la parole de Dieu. Ça fait penser à ce que Jésus dit dans Jean 8, verset 47, où Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Il parle aux pharisiens, il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On entend la même chose dans le discours de Jean, nous sommes de Dieu. Un enseignement qui est contraire à ce que la Bible enseigne, même s'il semble logique, même s'il est motivant, même s'il nous fait du bien, n'est pas de Dieu. Si c'est contraire aux Écritures, ce n'est pas de Dieu. Et c'est notre devoir en tant qu'auditeurs de vérifier est-ce que c'est ce que les Écritures enseignent. Attention, pas juste de dire « Ah ben oui, c'est dans la Bible ». Non, est-ce que c'est ce que vraiment le texte veut dire? Parce qu'il y a des gens qui prennent la Bible et qui peuvent tout le détourner. Mais c'est votre devoir, c'est mon devoir pendant la semaine de faire, oh, est-ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne? Est-ce que c'est semblable à ce que j'ai reçu jusqu'à maintenant? Saint-Esprit, révèle-moi si c'est de toi. C'est ce que Jean nous dit. C'est dans les Actes des Apôtres, les chrétiens de Bérée, c'est ce qu'ils faisaient. Ils vérifiaient si ce qu'ils avaient entendu était selon les Écritures. On revient à notre question, comment agissent des enfants de Dieu? Un, ils croient les bonnes choses. Et deux, ils obéissent aux commandements de Dieu. En 1 Jean 3, 24, Jean écrit, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 1 Jean 5, 3 dit, « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. » On en a déjà parlé un peu plus tôt, mais c'est clair pour Jean qu'un enfant de Dieu obéit aux commandements de Dieu. Il obéit aux commandements de son Père. Il agit selon la volonté de son Père. Et là, Jean écrit dans 1 Jean 3, et je l'ai dit la semaine dernière que Jean, c'est un radical, hein, il est très dans le noir et blanc. On va en voir un bon exemple. Il dit, « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. » Puisque le péché, c'est la violation de la loi. « Or, vous le savez, Jésus était apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent point. » Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Et là, on fait, « Oh, moi, ça m'arrive de pécher. Ça m'arrive de manquer la cible, de manquer la volonté de Dieu pour ma vie. » Il faut comprendre ici que quand Jean dit « celui qui pratique le péché », c'est l'idée d'en faire une pratique régulière. On ne parle pas juste ici d'une faute, mais de vivre dans une vie de péché. D'avoir une attitude de banalité et d'acceptation du péché, de « c'est pas grave, c'est correct ». Et Jean dit « non, celui qui vit d'une telle manière, il n'est pas de Dieu ». Puisque Jésus est sans péché, et encore là, c'est une affirmation très choc face aux faux enseignants qui disaient que l'homme Jésus ne peut pas être sans péché. Ah ben c'est aussi ça qu'affirmaient les enseignants. Et les enseignants disaient, Jésus est un homme, donc il a péché. Jean dit, Jésus est sans péché. Mais puisque c'est Jésus qui est sans péché, a vaincu le péché à la croix, si nous demeurons en lui, nous sommes aussi victorieux du péché. Nous n'avons plus à vivre dans le péché. C'est en demeurant en Christ qu'on peut vaincre le péché. En verset 6, il dit, « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas, ne sont pas dans cette habitude du péché parce qu'ils demeurent en lui. » Le péché ne domine plus sur nous. On n'en est plus esclaves. Oui, il y a peut-être des moments où je vais pécher, mais je ne vais pas marcher dans le péché. Le péché ne sera plus une habitude, une pratique normale et régulière. Je ne suis plus dans l'amour du péché, mais comme Dieu, je déteste le péché. On est appelé à poursuivre, à pratiquer la justice, la droiture. Et attention, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous rendent justes. Ce que Jean est en train de dire ici, ce n'est pas que faites des bonnes choses et vous allez être juste. Arrêtez de faire des péchés et vous allez demeurer en Christ. Non, il dit, si vous demeurez en Christ, vous allez voir une différence dans votre vie. Ce n'est pas les bons fruits qui rendent l'arbre bon. Mais les bons fruits démontrent que l'arbre a de la valeur et qu'il est bon. Parce qu'un bon arbre donne des bons fruits. Il n'y a personne qui fait comme, « Oh, je vais coller des bons fruits à un arbre, puis soudainement, il va se mettre à revivre. » Mais quand on voit un arbre qui est plein de bons fruits, on fait comme, « Ah, ça, c'est un arbre en santé. » Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Ce n'est pas nos œuvres qui nous rendent bons, mais nos œuvres sont une démonstration qu'on est en santé spirituelle, qu'on est transformé. Et dernièrement, comment agissent les enfants de Dieu? Mais ils s'aiment les uns les autres. 1 Jean 3, 11. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Jean 3, 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. 1 Jean 3, 23, et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Et j'en lis un dernier pour cogner le clou encore plus. 1 Jean 4, verset 11 dit, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand, à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres, Dieu se révèle. C'est comme ça que Dieu se révèle dans l'Église et dans le monde, à travers l'amour que nous avons pour les autres. Pour Jean, c'est la suite logique. Dieu est amour. Ceux qui sont nés de Dieu, qui connaissent Dieu, sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont la nature de Dieu. Donc, les enfants de Dieu vont aimer. L'amour de Dieu va nous inspirer à aimer les autres. En fait, alors qu'on aime les autres, on est simplement en train d'expérimenter qui nous sommes en Christ. Aimer les autres, c'est la réponse naturelle à cet amour qui est tombé sur nous, qui nous remplit alors qu'on demeure en lui. Dans 1 Jean 4, 20, Jean va dire la même chose, mais dans l'autre sens. Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Pour Jean, il y a un non-sens à dire aimer Dieu sans aimer son prochain. Si tu n'es pas capable d'aimer l'autre que tu vois, comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne parviens pas à aimer les créatures de Dieu, comment est-ce que tu peux aimer le Créateur? Si tu ne peux pas aimer ses enfants, comment est-ce que tu peux aimer le Père? Jean dit, c'est ce qu'on devrait être. Si Dieu aime les autres, puis qu'on a son cœur, on devrait nous aussi aimer les autres. Et là, il va nous donner des exemples de comment se manifeste cet amour. 1 Jean 3, verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien dans ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et des belles paroles, à des « je t'aime et je vais prier pour toi », mais qu'il manifeste sa réalité par ses actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Jean dit, si tu aimes ton prochain, agis avec amour envers lui, réponds à ses besoins. Face aux besoins, puis il y a tellement de besoins, honnêtement. Hein? Mais comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on sauve? Est-ce qu'on met des œillères? On ferme nos yeux? On dit, ah, c'est moi et Dieu. Puis le reste du temps, on ne démontre pas d'amour. Ou est-ce que la révélation de l'amour de Dieu nous pousse à agir envers les autres? L'Église devra être reconnue pour être des gens remplis de générosité, remplis d'implication envers ceux qui sont dans le besoin, en ce que la Bible appelle la veuve et l'orphelin. On devrait être les premiers à être les bénévoles, les premiers à donner, les premiers à s'impliquer. Parce qu'on comprend l'amour de Dieu. Je vais inviter les musiciens. Jean dit, Dieu est amour. Et à cause de son amour, il a fait de nous ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, nous avons les bonnes croyances. J'ai un blanc. Pour vrai. Je sais, il s'aime, mais il manque le point 2. On obéit au commandement de Dieu et on s'aime les uns les autres. Les trois choses que font les enfants de Dieu pour Jean, ils ont les bonnes croyances, ils obéissent au commandement de Dieu et ils s'aiment les uns les autres. Et là, Jean va dire, ça là, ça devrait faire grandir quelque chose en nous, ça devrait faire grandir une assurance de notre salut, une assurance nouvelle. Et Jean écrit à des gens qui sont inquiets, qui se posent plein de questions. Et dans 1 Jean 4, 7, il leur dit, « Voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement en nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans le monde est celle que Christ a connue lui-même. » Jean dit, « Quand vous comprenez l'amour de Dieu, c'est supposé créer dans votre cœur une assurance face au jour du jugement. Je suis un enfant de Dieu. Je suis justifié par Christ. » Et Jean termine sa lettre. Est-ce qu'on va lire en terminant? Dans 1 Jean 5, à partir du verset 13. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle, sachez-le. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, hein, selon sa volonté, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Non seulement on a la vie éternelle, mais en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'on peut s'approcher de notre Père et lui exprimer nos besoins. Il nous écoute. On a une oreille auprès de Dieu. Verset 18, Jean continue. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Nous avons la victoire sur le péché. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons que nous, nous appartenons à Dieu. Verset 20, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Alors, je vous ai parlé auparavant de comment il y a des gens qui disaient, pour connaître vraiment Dieu, il faut passer par des enseignants. Jean termine sa lettre en disant, Dieu, Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Le Saint-Esprit, Jean va dire, comme on a lu la semaine dernière, que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. On peut être en communion avec Dieu en Jésus-Christ. Et là, Jean termine sa lettre avec la conclusion la plus étrange. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais ce que Jean veut dire, c'est que depuis le début, il essaie de nous dire, il y a des gens qui vous enseignent des fausses conceptions de Dieu. Et qu'est-ce qu'une idole? Mais c'est un faux Dieu, c'est une fausse conception de qui Dieu est. Et Jean dit, je vous ai dit qui est vraiment Dieu. Attention au reste, faites attention. Revenez à Jésus. Hein, qui dit, et il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Dieu est amour. Dieu déclare et fait de nous ses enfants. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à lui obéir, à s'aimer les uns les autres. Il nous donne une assurance nouvelle que nous avons la vie éternelle, que nous sommes en communion avec lui. Je suis excité par le chant qui joue. C'est ce que le message que Jean veut nous dire. Attache-toi à Dieu. Demeure près de lui. Réalise la grandeur de son amour et ça va tout changer. Ça va fortifier, ça va te donner une assurance que tu es aimé et que Dieu prend soin de toi. Qu'alors que tu demeures en lui, tu vas être uni, tu vas être en communion avec lui. Et tu vas être transformé. Pas s'empêcher par tes propres forces, par tes œuvres, par ce que tu es capable de faire, mais par l'œuvre de Dieu en toi. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur Jésus, on te remercie pour cet amour. Oui, Père éternel, je te remercie que nous sommes tes enfants. Non seulement appelés enfants de Dieu, mais Jean dit, nous le sommes. Et Seigneur, on veut vivre dans cette vie éternelle dès maintenant, cette vie d'abondance qui appartient aux enfants de Dieu. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, on veut apprendre à croire ta parole, Seigneur Dieu. à croire, à t'obéir pleinement, Seigneur Dieu, pas par nos forces, mais par la transformation de l'Esprit en nous. Seigneur, on veut apprendre à s'aimer les uns les autres. On veut que notre vie soit une vie remplie d'amour, de ton amour qui se manifeste, qui déborde dans l'Église, dans notre famille, au travail, partout où nous sommes, mon Dieu. Seigneur, je te prie de mettre l'assurance dans nos cœurs que nous sommes sauvés, que nous sommes tes enfants, que nous avons la vie éternelle, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu te révèles ce matin. Tu révèles la grandeur de ton amour, Jésus. À toi soit toute la gloire, Père éternel. Amen.